Chapitre 7. Nous étions partis, toujours explorant pas à pas cette route, nous étions partis de Sainte-Menou à 10 heures du matin. Une demi-heure après, nous étions au point le plus élevé de la côte. C'est là, à la Grange aux Bois, que commence la forêt d'Argonne, le défilé qu'un an plus tard, juin 1792, Dumouriez était chargé de défendre. À droite et à gauche de la route, on voit encore la place des batteries qui croisaient leur feu. Mais pour cela, il faut suivre la vieille route, bien entendu. Voyons, mon cher Victor, voyons, grand peintre, ce que vous pensez de ce paysage. J'ouvre et je lis. Avant d'arriver au gros bourg de Clermont, on parcourt une admirable vallée où se rencontrent les frontières de la Marne et de la Meuse. La descente dans cette vallée est magique. La route plonge entre deux collines et l'on ne voit d'abord au-dessous de soi qu'un gouffre de feuillage. Puis le chemin tourne et toute la vallée apparaît, un vaste cirque de collines. Au milieu, un beau village presque italien, tant les toits sont plats. À droite et à gauche, plusieurs autres villages sur des coupes boisées. Des clochers dans la brume révèlent d'autres hameaux cachés dans les plis de la vallée, comme dans une robe de velours vert. D'immenses prairies où paissent de grands troupeaux de bœufs, et à travers tout cela, une jolie rivière vive qui passe joyeusement. C'est bien cela, et je n'ai pas besoin d'autres descriptions. Celle-ci est parfaite. Le village au toit plat, c'est le village des Ilettes. C'est au-dessus de ce village que Guillaume dut prendre à travers bois. Seulement, avec la route nouvelle, vous perdez la trace. Il faut suivre la vieille route où l'on ne peut plus aller qu'à pied, coupée qu'elle est aujourd'hui dans son abandon par des ravins et des fondrières. Nous arrivâmes à Clermont. Le cheval avait besoin de souffler. Nous nous arrêtâmes dans une espèce de cabaret à droite de la rue, à moitié du village à peu près. La bonne femme qui tenait ce bouchon nous fit entrer dans une petite chambre à droite de la cuisine et où se trouvait un tableau collectif de toute la famille d'Orléans, ayant à sa gauche un portrait du prince Eugène, à sa droite un portrait de Poniatowski, des cadres noirs et les gravures que vous savez. Aussi, reconnaissant les individus et n'ayant rien à chercher là comme art, je ne fis aux portraits royaux et princiers qu'une médiocre attention. Mais il n'en fut pas ainsi de deux charmants petits médaillons de forme oblongue, placés de chaque côté de la cheminée et représentant l'un une jeune fille, l'autre un jeune homme, tous deux dans le costume, assez peu pittoresque mais très caractéristique, de 93. La peinture, quoique un peu floue, avait un certain caractère, et l'on voyait que c'était, sinon d'un maître, du moins de quelqu'un qui savait manier le pinceau. J'appelai l'hôtesse et lui demandai ce que c'était que ces deux portraits. « C'est, me dit-elle, le portrait de la demoiselle du pays et celui de son fiancé. » Je lui demandai ce que c'était que la demoiselle du pays. La demoiselle du pays était, il y a 65 ans, à ce qu'il paraît, la plus jolie personne de Clermont. Voilà pourquoi on la désignait sous le nom de « la demoiselle du pays ». Elle s'appelait Angélique Lefebvre. Son fiancé était commissaire de la République. Il passait souvent en poste à Clermont. Il vit la demoiselle du pays et en devint amoureux. Lui se nommait Sulpice Huguenin. Un jour, la jeune fille disparut. Le commissaire de la République l'avait enlevée. Là-bas, c'est ainsi que mon hôtesse désignait Paris, ils se marièrent et revinrent à Clermont, jeunes, riches, heureux. Ils firent alors bâtir un château au-dessus du gué. Mais, ajouta philosophiquement mon hôtesse, la fortune ne reste pas toujours dans la même main. Un jour, le bruit se répandit qu'ils étaient ruinés et qu'on allait tout vendre chez eux. On vendit tout, en effet, meubles et châteaux. La jeune fille revint chez ses parents, le jeune homme retourna à Paris pour chercher une place. Tout à coup, on vit la demoiselle du pays, on avait, malgré son mariage, continué de l'appeler ainsi, vêtue de noir. Son mari était mort d'une hémorragie. Toute sa vie, elle porta le deuil. Enfin, en 1815, elle mourut à son tour d'une fièvre pernicieuse. Il y avait au premier, me dit encore l'hôtesse, un tableau qui représentait les deux jeunes gens. Non seulement un tableau, mais aussi une gravure. Je montai au premier. Le tableau est délicieux comme couleur d'époque. Les deux amoureux se promènent dans une forêt et, arrêtés un instant, s'appuient l'un à l'autre et se regardent avec amour. Des nymphes qui sortent de terre, entre des troncs d'arbres, les contemplent et semblent envier leur bonheur. Si Sulpice Huguenin n'avait à ses pieds son chapeau, décoré d'une large cocarde tricolore, on jurerait Werther promenant Charlotte. La gravure et le tableau sont de Mademoiselle Gérard. Toute la vie de ces deux charmantes créatures est en deux mots, comme elle est dans ces deux médaillons. Ils s'aimaient. On ne saurait croire quel intérêt je prise à cette pauvre histoire, qui n'a cependant rien de bien intéressant. Mais les deux têtes étaient si pleines d'amour qu'à côté de cette histoire de leur vie, le roman de leur cœur doit être ravissant. Vous qui aurez lu ces lignes et qui passerez au bureau de la messagerie, demandez à voir ces deux portraits. Au sortir de Clermont, notre cheval, que le conducteur avait un peu surmené, prit le prétexte d'une descente assez rapide pour s'abattre et nous abattre avec lui. Nous nous démêlâmes comme nous pûmes et nous nous remîmes lestement sur pied. Quant au cheval, il ne bougea point. Un instant, nous fûmes ses dupes et le crûmes atteint d'un coup de sang. Je proposai de le saigner. Notre conducteur, plus au fait de ses caprices, le traita par des coups de fouet. Le traitement fit son effet. Notre bucéphale se redressa, rentra docilement dans les brancards et reprit en trottant le chemin de Varennes. Vers les 4 heures, nous arrivâmes aux premières maisons. Tout ce qu'on peut savoir d'un pays sans l'avoir vu, je le savais. Seulement, j'étais induit en erreur, comme tout le monde, sur le lieu de l'arrestation de Louis XVI. Pas un historien qui ne dise qu'il fut arrêté au grand monarque. Il nous y conduisit. Je reconnus le pont, je reconnus la rivière, et j'arrivai au grand monarque, convaincu que c'était là le lieu de l'arrestation. Cependant, la vue de la grande place, sur laquelle donnent les fenêtres de l'hôtel, me jeta dans le doute. J'avais lu dans Hugo, et je sais l'exactitude comme peintre de mon Hugo, j'avais lu dans Hugo « Aujourd'hui, je traverse la petite place de Varennes qui a la forme du couteau de la guillotine. » Or, la place que j'avais sous les yeux était non pas petite mais grande, non pas triangulaire mais carrée. J'appelai la maîtresse de l'hôtel, Madame Gauthier. « Madame, lui demandai-je, voulez-vous me dire où est la maison de Monsieur Sauce ?» « Oh, monsieur est comme les autres, il se trompe de place !» N'est-ce donc point en face de l'hôtel du grand monarque que Louis XVI a été arrêté ? Non, c'est en face de l'hôtel du Bras d'Or, dans la ville haute, à côté de la place de la Trie. Louis XVI n'a donc point passé le pont ? Jamais, monsieur. Le plus loin qu'il ait été dans la ville, c'est chez le procureur de la commune. S'il eût pu parvenir jusqu'au pont, il eût été sauvé, puisqu'il eût été au milieu des hussards. En effet, c'était vrai. Mais, insistai-je, tous les historiens disent que Louis XVI fut arrêté à l'hôtel du grand monarque. Il se trompe, il y était attendu. J'ai bien souvent entendu dire que, pendant 8 jours de suite, on lui avait tenu un dîner tout près. Mais si vous voulez voir l'endroit véritable où il a été arrêté, remontez dans la ville haute. Nous retraversâmes le pont. Nous remontâmes la rue de la Basse-Cour, et nous nous retrouvâmes enfin sur la petite place qui a la forme du couteau de la guillotine. Là, je me reconnus. Cependant, j'avais besoin d'un cicérone. J'entrai à la mairie. Le bonheur fit que je tombai sur l'archiviste. Je me nommai, il voulut bien se mettre à ma disposition. Dans une ville comme Paris, au milieu d'une population comme la population parisienne, aucun événement, si important qu'il soit, ne laisse sa trace. C'est qu'il en est des événements qui se passent à Paris comme des flots de la mer. Les uns chassent les autres. Mais dans une petite ville de province comme Clermont, comme Sainte-Menoux, comme Varennes, il n'en est point ainsi, comme Varennes surtout. Personne n'avait parlé de Varennes avant le 21 juin 1791. Le 22, Varennes était à l'ordre du jour du monde entier. L'Europe avait les yeux fixés sur lui. Varennes a vécu 12 heures d'une vie fiévreuse. Pendant ces 12 heures, un événement immense s'est accompli dans ses murs. Depuis ce jour, tout ce qui naît à Varennes regarde en arrière et vit les yeux fixés sur ce grand événement. Vous pouvez interroger le dernier citoyen de Varennes, il sait mieux l'histoire de ces 12 heures que le plus savant historien. Au milieu de la nuit profonde de la province, il y a eu 12 heures de lumière d'orage et d'incendie. Tout ce qui, pendant ce temps, a été éclairé, fêtes, paroles, événements, est resté dans l'esprit du peuple, aussi présent que si les choses s'étaient passées la veille. Et elles resteront ainsi, quoi qu'il arrive, car jamais événement de cette importance ne viendra effacer celui-là. Supposez Varennes ensevelie sous la lave comme Herculanum, ou dans la cendre comme Pompéi, et le jour le plus important de Varennes ne sera pas le jour où il aura péri. Le jour le plus important de Varennes restera le 22 juin 1791, jour où le roi Louis XVI fut arrêté en face du bras d'or. Aussi notre archiviste accomplit-il à merveille son office de cicérone. Avec lui, rien ne nous demeura plus obscur. La place reprit sa forme primitive, l'église démolie se rebâtit, la voûte, qui n'existe plus aujourd'hui, arrondit de nouveau son cintre, la maison de l'épicier Sauce, qui a fait un pas de retraite d'1,30 m, reprit son alignement, et alors je compris tout ce qu'il m'était impossible de comprendre avec M. Thiers. Voilà ce que dit l'historien de la Révolution sur le seul fait de Varennes. Vous verrez les erreurs que nous avons relevées. Est-ce que, par hasard, cette histoire, prétendue irréprochable, serait aussi inexacte qu'elle est pauvrement écrite ? Varennes est bâtie sur le bord d'une rivière étroite mais profonde. Un détachement de hussards y était de garde. Mais l'officier, ne voyant pas arriver le trésor qu'on lui avait annoncé, avait laissé sa troupe dans les quartiers. La voiture arrive enfin et passe le pont. À peine est-elle engagée sous une voûte que Drouet, aidé d'un autre individu, arrête les chevaux. « Votre passeport » s'écrie-t-il. Et, avec un fusil, il menace les voyageurs s'ils s'obstinent à avancer. On obéit à cet ordre et on livre le passeport. Drouet s'en saisit et dit que c'est au procureur de la commune à l'examiner et la famille royale est conduite chez ce procureur nommé Sauce. Que nous sommes bien autrement exacts que cela, nous autres romanciers. Ainsi, c'est Hugo qui m'aide à corriger Lacretelle, Lamartine et Thiers. Mais ce que je désirais surtout, c'était un plan de la ville. Nous retournâmes à la mairie et l'on m'en montra un. Il était de 1812. Ce n'était point là ce qu'il me fallait. C'était un plan antérieur à 1791. Notre cicérone se mit à réfléchir. Puis, tout à coup, se frappant la tête, « J'ai votre affaire, » dit-il, « venez avec moi. » Quand je suis à la poursuite d'une idée, je ne m'inquiète jamais du dérangement que je cause. Il faut avant tout que j'arrive à mon but. Notre archiviste frappa à une porte. « Monsieur Carré de Malberry est-il ici ? » demanda-t-il. « Oui, seulement il est là-haut, il déménage son cabinet. » « Dites-lui que M. Alexandre Dumas désire lui parler et priez-le de descendre. » Je laissai non seulement tout faire, mais tout dire. À mon nom qu'elle avait entendu, Mme de Malberry sortit d'une chambre et me fit entrer au salon. Quelques secondes après, des pas se précipitèrent dans l'escalier. C'était M. de Malberry qui descendait. Pourquoi donc douterais-je quand je vois chacun si bon, si cordial, si empressé pour moi ? Je vais demander un service et l'on me reçoit comme si je venais le rendre. M. Carré de Malberry avait un plan de la ville de Varennes fait par son père en 1772. Je lui demandai la permission de le décalquer. Il fit mieux que de me donner cette permission, il me donna le plan. Les deux procès-verbaux de l'arrestation du roi, le premier du 23, le deuxième du 27, me manquaient encore. Je voulus aller les copier à la mairie. Mon archiviste se chargea de me les faire copier. Nous n'eûmes qu'à rentrer à l'hôtel du Grand Monarque et à dîner. À propos de l'hôtel du Grand Monarque, Hugo dit « Louis XVI s'est peut-être arrêté au Grand Monarque, il s'est alors vu, peint en enseigne, roi en peinture lui-même, pauvre Grand Monarque !» En effet, les aubergistes du Grand Monarque avaient l'habitude, à chaque nouveau règne, de faire la dépense d'un nouveau portrait. Ceux qui vécurent sous Louis XIV, qui régna 71 ans, ceux qui vécurent sous Louis XV, qui régna 54 ans, ceux qui vécurent sous Louis XVI, qui régna 19 ans, s'en tirèrent encore. L'embarras commença sous la République et sous le Directoire pour cesser un instant avec Napoléon Ier. En 1814, il fallut lui substituer Louis XVIII. En 1815, représenter Napoléon. 3 mois après, le gratter, repeindre Louis XVIII. Puis Charles X, puis Louis-Philippe. Louis-Philippe fut la dernière effigie de l'enseigne du grand monarque. À la République de 1848, un régiment du génie, voyant le portrait de Louis-Philippe, qui, depuis 18 ans, lui payait sa solde en monnaie à son effigie, se fâcha tout rouge, prit un pot de bleu de Prusse et barbouilla l'enseigne. Depuis ce temps, Madame Gautier, qui est une femme de sens, a laissé son enseigne barbouillée. L'hôtel reste l'hôtel du grand monarque, sans monarque. Je ne sais si l'hôtesse qui tenait le grand monarque en 1791 était de la force en cuisine de Madame Gautier. En admettant qu'il en fût ainsi, Louis XVI, qui était un gourmet, a dû regretter ses 8 dîners qui étaient préparés pour lui et qui ont été perdus. Mon cher Victor, vous qui, il y a 17 ans, jour pour jour, étiez logé à l'hôtel du grand monarque, vous qui faites attention à tout, même à la date d'un clocher, et qui faites remarquer qu'avec la date de 1776, le clocher de la Grande Place a 2 ans de plus que Madame Royale, vous n'avez pas fait attention à 2 petites filles qui, à cette époque, couraient dans vos jambes. La plus âgée avait 5 ans, la plus jeune avait juste ces 2 ans qui faisaient la différence entre l'âge du clocher et l'âge de Madame Royale. Vous n'y avez point fait attention et vous n'en parlez pas. Retournez aujourd'hui à Varennes. Les 2 enfants ont grandi, sont devenus 2 charmantes personnes du nom de Rose et du nom de Clémence. Allez-y, et tout en vous servant, toute rougissante, les plats de Madame Gautier, elles vous diront ce qu'elles m'ont dit à moi. Ah, monsieur, j'ai été bien grondée à cause de vous. Et alors Madame Gautier vous expliquera que ses 2 filles volaient les bougies maternelles pour lire, une fois retirées dans leur chambre, les poésies de M. Victor Hugo et les romans de M. Alexandre Dumas. Vous comprenez que je ne les ai pas grondées pour ce crime. Je les ai embrassées une fois pour vous, une fois pour moi. Un des beaux jours de ma vie, mon cher Victor, sera celui où vous m'écrirez que vous venez d'en faire autant. Nous venions d'achever un des meilleurs dîners que nous eussions fait, certes, depuis longtemps, lorsque je reçus un message du curé de Varennes. Il me demandait s'il serait indiscret à lui de venir me faire une visite avec son vicaire. Je lui répondis à l'instant même que c'était à moi de me déranger pour lui et non à lui de se déranger pour moi. 5 minutes après, je traversai la place et j'étais chez lui. J'y entrai à 7h30. J'en sortis à 1h du matin. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que pendant ces 5h30, nous parlâmes histoire et théologie. Je remercie Monsieur le curé de Varennes de l'excellente soirée qu'il m'a fait passer. À 1h du matin, nous remontâmes en voiture et nous partîmes. J'ai 3 recommandations à faire aux personnes qui iront après moi à Varennes. Loger chez Madame Gautier au Grand Monarque, causer avec le curé de Varennes et son vicaire, et revenir à travers la forêt de l'Argonne par un beau clair de lune.